Ce soir donc, comme il vous l'a été dit, nous allons nous entretenir d'une génération en mal d'espoir. Nous lisons quelques textes introduisant ce sujet au livre de Jérémie le prophète. Au chapitre 29e, nous lisons les versets 11, 12, 13 et 14. « Je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Quelle promesse! Nous savons donc ce soir ce qui est dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Eh bien, que ce Dieu-là, le Dieu de la promesse, le Dieu de l'espérance, ce soir nous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour un dimanche soir, c'est un succès de voir cette salle comble, parce que pratiquement, il ne reste pas beaucoup de place vide. Soyez donc les bienvenus, comme il vous l'a été dit, et nous entrons de plein pied dans notre sujet à présent. Trois domaines ont constamment hanté l'homme. L'homme de toujours, l'homme depuis le commencement. Le ciel sur sa tête, le ciel nous a toujours hanté. L'homme s'est toujours posé la question de savoir si le ciel est habité. Un autre domaine qui nous a toujours hanté, la mort sous nos pieds. Et nos psychologues, nous avons eu l'occasion de le dire au cours des soirs passés, nos psychologues affirment que la mort est aujourd'hui source d'angoisse considérable. Troisième domaine qui nous a lui aussi hanté depuis le commencement, l'avenir. Oui, depuis le commencement, l'homme a voulu connaître, sonder ses lendemains. Et ses lendemains, son futur, son avenir, ont été source d'angoisse pour lui. C'est encore le cas de nos jours. Mais pendant longtemps, l'avenir a été le monopole des prophètes, des mages, des devins, des voyants. C'est ainsi que dans l'ancienne Chaldée, on en avait appelé aux étoiles pour le connaître, l'avenir. Et vous n'êtes sûrement pas sans savoir que l'astrologie a vu le jour il y a, bien sûr, très longtemps, dans cette région du monde. L'astrologie nous vient de prêtres babyloniens, lesquels, en leur temps, observaient ce qu'ils appelaient les lampes des dieux dans le ciel clair de la Mésopotamie. Après eux, les devins romains interrogeaient les entrailles d'animaux sacrifiés ou encore les vols d'oiseaux, croyant y voir certains présages. Pour qui a fait du César dans le secondaire, comme c'est mon cas, on s'en souvient. Après ces Romains, plus proche de nous, celui-là, un certain Michel de Notre-Dame, passé à la postérité sous le nom de Nostradamus, crut déchiffrer l'avenir du monde en scrutant le ciel clair de sa Provence natale. Il écrivit tout ce qu'il put en vers rangés sous le nom de centurie, encore assez lu de nos jours. Et savez-vous que Nostradamus, à l'heure qu'il est, défraye la chronique? Et savez-vous pourquoi? Il aurait annoncé un cataclysme universel pour cette décennie. Alors, le monde tremble, et en particulier la France. Et pendant tout un temps, en France, Nostradamus était à la une de nos journaux. Mais aujourd'hui, ces hommes modernes que nous sommes, dans ce siècle éblouissant d'électronique, de technologie, de biologie, ces hommes modernes que nous sommes en appellent à la science pour le connaître, cet avenir. Et c'est ainsi que une discipline, une science nouvelle a vu le jour, une science qu'il est convenu d'appeler la futurologie, et qui peut s'apprendre comme une autre science. La futurologie, aujourd'hui, est une forme de voyance scientifique, qui tente d'appréhender l'avenir en ayant recours aux moyens de la technique moderne. Et ce sont nos ordinateurs qui sont sollicités par la futurologie. Ce sont nos ordinateurs que nous questionnons pour qu'ils nous disent de quoi seront faits nos lendemains. Nous en appelons donc à la science. Et aujourd'hui, les instituts de futurologie prolifèrent dans le monde. Vous en avez en Suisse. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Suisse, des ordinateurs, des instituts de futurologie travaillent à sonder votre avenir. Nous en avons en France plus d'une cinquantaine. Je l'ai su par le Club de Rome, qui est l'un des instituts de futurologie les plus en pointe dans notre Europe. Le Club de Rome qui n'a rien à faire, bien sûr, avec le Vatican, mais qui tente d'appréhender, de connaître, de sonder l'avenir de l'Europe. Et de temps à autre, eh bien, nous entendons quelques échos de cet institut de futurologie, et des échos la plupart du temps pessimistes, en même temps qu'alarmistes. La futurologie, donc, est une approche scientifique du futur à partir de nos données présentes. Des savants, des experts informaticiens, des chercheurs travaillent à sonder l'avenir du monde. Aux États-Unis, bien sûr, ces instituts de futurologie abondent. Et ils ne sont pas du tout pessimistes. Optimistes. Ils sont pessimistes. Ces instituts de futurologie nous ont semblé indispensables et nécessaires parce que nous vivons, à l'heure qu'il est, des temps plus sérieux, plus graves que jamais auparavant. Le moindre impair, la moindre erreur peut nous faire sauter. Il y a peu de temps, tenant une série d'évangélisations à Bruxelles, pour l'occasion, l'Église libre de Bruxelles m'avait logé chez un diplomate anglais, lequel travaillait à l'OTAN. Et un soir, il est rentré de son travail, nous faisant savoir que nous étions passés, mais tout à côté, d'une déflagration nucléaire. Alors, avec son épouse, nous l'avons regardé, l'air interrogateur, pour savoir s'il plaisantait ou s'il parlait sérieux, mais il nous a dit, mais je vous parle de manière très sérieuse, et nous l'avons su après coup. Après coup, par nos journaux, par nos médias, qu'en effet, les forces américaines stationnées sur le continent américain avaient été mises en état d'alerte, mais pour exercice seulement. Mais qu'un ordinateur, lui, s'est trompé. Il arrive qu'il se trompe, nos ordinateurs. Un ordinateur s'est trompé, et au lieu de donner l'alerte pour exercice aux seules forces américaines stationnées sur le continent américain, il a donné l'alerte à toutes les forces américaines stationnées dans le monde, existantes dans le monde. Alors le stratégique Air Command avait déjà pris l'air. Imaginez, un chargé d'ogives nucléaires, il était déjà en l'air. Heureusement que notre ordinateur est arrivé au secours du premier pour rectifier, mais il ne tenait à rien qu'une déflagration nous atteigne. Et ce diplomate m'a dit quelques minutes. Seulement quelques minutes. Vous savez, ce genre de guerre que nous avons connue, où l'on se mobilise à grand fracas, n'est-ce pas ? Où l'on enrôle des volontaires, etc. C'est du passé, hein. Ça fait partie de notre histoire, mais c'est fini. Le jour où une guerre éclatera, mais nous n'aurons pas le temps de faire ouf. Nous n'aurions même pas appris l'existence de cette guerre. Oh, je ne veux pas ce soir jouer les prophètes de malheur, hein. Surtout pour notre dernière série. Mais enfin, il nous faut être réalistes. Nous vivons des temps excessivement dangereux, et puis ils sont dangereux au niveau d'autres plans, d'autres domaines. Billy Graham, par exemple, il y a peu de temps, nous faisait savoir ce qui suit, et ce que je vous rapporte, je l'ai entendu de sa propre bouche. Et il nous a rapporté qu'on a confié aux États-Unis, à un ordinateur des plus perfectionnés, toutes les données de notre temps, tous nos problèmes, en même temps que toutes nos questions. Et Billy Graham de préciser, nous avons parlé à cet ordinateur de guerre, puisque des guerres ici et là éclatent. Nous avons parlé à cet ordinateur du phénomène violence à l'heure qu'il est. Et le phénomène violence, mes amis, laisse comme présager la fin de la civilisation. J'ai su par le journal Le Point, que vous connaissez peut-être, que vous lisez en Suisse peut-être, qu'en France, en une année, nous avons enregistré 1 700 000 crimes et délits. Alors on ne nous dit pas tout. Que ceci ne vous empêche pas de venir en France, hein. Mais quand même. Billy Graham nous faisait aussi savoir qu'on a parlé à cet ordinateur de famine, de pollution, de crise économique, de chômage, etc. Et puis, on a attendu, nous a dit Billy Graham. On a attendu pour voir ce que cet ordinateur dirait de toutes nos questions, de tous nos problèmes, face auxquels nous sommes sans réponse, sans solution. Et la réponse est arrivée, nous a dit Billy Graham, de façon claire, nette, précise, sans ambiguïté aucune à partir de sa logique mathématique, électronique. Cet ordinateur a dit ce qui suit, la génération ne passera pas. Alors, il faut absolument préciser que ce n'est pas Billy Graham qui a dit ça. Il faut aussi préciser que ce n'est pas Alain Chouaquier non plus, hein. Moi, je n'en sais rien. Il est évident que l'ordinateur porte la responsabilité de ses affirmations. C'est lui le responsable. Alors, s'il vous arrivait de rapporter cette histoire, dites bien que c'est un ordinateur qui l'a dit. En d'autres termes, c'est notre science, ce qui nous fait précisément trembler. De sorte qu'à partir de nos données actuelles, c'est sans issue, absolument sans issue, et malgré les meilleures volontés. Et nos ordinateurs, voyez-vous, que nous sollicitons, ont de quoi transpirer. Façon de parler, bien sûr, ils ne transpirent pas. Mais ils ont de quoi être, eux aussi, angoissés quand nous leur faisons savoir, par exemple, et ce chiffre, je le tiens, de l'ancien président de la République française, Giscard d'Estaing, lequel, à la tribune des Nations Unies, a affirmé ce qui suit. À l'heure qu'il est, et il y a de cela quelques années déjà, à l'heure qu'il est, a-t-il dit, notre monde dépense 2 millions de francs suisses par minute pour s'armer. Il n'y a pas de quoi transpirer. 2 millions de vos francs par minute pour s'armer. Cet argent pourrait être employé à autre chose quand on pense que 2 hommes sur 3 aujourd'hui ne mangent pas à leur faim. Cet argent pourrait être employé à d'autres fins, à des fins médicales par exemple, pour tenter de vaincre certaines maladies qui encore font des ravages parmi notre génération, dans notre génération. Et puis ces mêmes ordinateurs ont de quoi transpirer quand ils nous font savoir que vers l'an 2000, notre Terre portera quelques 6,5 milliards d'individus. Avec 4 milliards déjà, il semble qu'elle en est assez de nous porter. Elle portera 6 milliards 500 millions d'individus. Ces mêmes ordinateurs nous font savoir qu'au rythme actuel de l'explosion démographique, vers l'an 2100, nous serons 20 milliards. Mais est-ce que ce chiffre peut se concevoir? Quand avec ces 4 milliards que nous sommes déjà, nos savants, nos hommes d'État, nos chefs politiques, ont un réel cauchemar. Et puis, ces mêmes ordinateurs de nous faire savoir encore que si la Terre est toujours là, vers l'an 2025, 170 millions d'enfants de plus mourront de faim. En une année. C'est donc apparemment sans issue. Et le Club de Rome a lancé il y a peu de temps le cri d'alarme suivant à nos chefs d'État dans le monde, textuellement. Et ce sont nos ordinateurs qui parlent parce que le Club de Rome travaille sur ordinateur. Notre monde, textuellement, court à la catastrophe si nos tendances actuelles se poursuivent. Et ce Club de Rome, avec lequel j'ai été en contact quelques années, et qui m'envoyait quelques résultats de ses travaux, travaille sur 5 facteurs de recherche. La démographie, la nourriture, les ressources non renouvelées, la pollution, la production industrielle et l'environnement. À partir de ces facteurs-là, notre monde court à la catastrophe, disent nos ordinateurs. Et ce sont nos ordinateurs qui aujourd'hui jouent les prophètes. Il y a quelques années, des hommes de Dieu parcouraient le monde, disant à leur génération, mais attention, nous avons pris une mauvaise direction, et un jour il faudra comparaître devant Dieu, un jour il faudra payer. Et alors on se moquait de ces hommes de Dieu, on leur riait au nez. Aujourd'hui, ce ne sont plus les hommes de Dieu qui crient cela souvent. Ce sont nos savants, nos hommes de science, nos ordinateurs qui annoncent un cataclysme terrible si nos tendances actuelles se poursuivent. Mais il semble que le point de non-retour ait été dépassé. La Bible dit ce qui suit, c'est Dieu qui parle. Au livre du prophète Jérémie, au chapitre 2 et au verset 19, « Tu sauras et tu verras combien il est mauvais, amer, d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de lui aucune crainte. » Dieu, toujours dans sa parole, nous avertit en ces termes au livre d'Ésaïe le prophète, au chapitre 30 et au verset 1, « Malheur à ceux qui prennent des décisions sans moi !» Or, c'est ce que nous faisons couramment. Que je sache, il n'y a pas, aux Nations Unies, ce palais de verre que j'ai été voir il y a quelques années avec mon épouse, il n'y a pas aux Nations Unies un quelconque endroit où se retirer pour se placer devant Dieu avant de prendre des décisions engageant notre humanité. Dieu dit « Malheur à ceux qui prennent des résolutions, des décisions sans moi !» Et la Bible dit encore « Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. » Il n'y en a point. Mais nous devons savoir que ce qui est dans le cœur de Dieu, ce n'est pas que l'homme périsse. Mais c'est qu'il se repente de ses péchés, qu'il change de route, qu'il se convertisse afin que Dieu le sauve. Il semble que l'homme s'entête s'entête à vouloir se tirer lui-même de ses difficultés, de ses problèmes, sans compter avec Dieu. Voilà tout son malheur. C'est là tout son malheur. Et Dieu dit, convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espérance à saisir. Il y a une autre route à prendre. Et puis, le Dieu de la Bible s'appelle le Dieu de l'espérance. Mais quel réconfort ! Quelle nouvelle ! Quelle bonne nouvelle ! Que le Dieu de l'espérance ! Il y a donc une espérance encore à saisir. Dans cette conjoncture apocalyptique, tenez, j'ai appris cet après-midi que les Anglais et les Argentins se sont déjà affrontés, militairement, autour de ces îles Malouines. Avec cela, on dit la plupart du temps, nous en sortirons, l'homme est assez sage aujourd'hui, et nous ne sommes pas fous. Le sang va certainement couler dans ces histoires d'îles Malouines, par la faute de l'homme. Alors on accuse Dieu, hier on me l'a dit, à minuit et demi dans ce lieu. Dieu n'est-il pas responsable de tout ce qui se passe sur la terre ? On ne veut pas de Dieu, et quand les choses ne tournent pas rondement, quand il y a catastrophe, quand il y a guerre, c'est encore sa faute. C'est la faute de Dieu, mais en attendant, on ne veut pas de lui. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'espoir. Il est le Dieu de l'espérance. Et il pourrait ce soir mettre en vous une espérance extraordinaire. Une espérance qui éclaire l'horizon, qui l'illumine. Parce que le chrétien, même âgé, n'attend pas la mort. Qu'attend-il ? Il attend le retour du Christ. Parce que le Christ a dit... Je reviendrai. Il l'a promis. Alors le chrétien d'hier là, a attendu le Seigneur. Le chrétien d'aujourd'hui l'attend. Et si le Seigneur devait tarder dans l'accomplissement de sa promesse, le chrétien de demain l'attendrait encore. Et la Bible nous fait savoir que si le Christ tarde à venir, c'est simplement qu'il voudrait que tous parviennent à la repentance. Lui qui veut qu'aucun ne périsse, c'est écrit dans son livre. Il s'appelle le Dieu de l'espérance, c'est-à-dire le Dieu qui donne une espérance extraordinaire. La Bible dit que cette espérance est une bonne espérance. 2 Thessaloniciens 2:16. Pourquoi est-ce une bonne espérance ? Parce que pour commencer, écoutez bien, et ceci est la bonne nouvelle de l'Évangile, cette espérance sauve celui qui la possède. Vous lisez ça quelque part dans l'Écriture, Alain Chouaquet, mais certainement. Romains 8, 24. C'est en espérance que nous sommes sauvés, dit l'apôtre. C'est une espérance qui sauve. Qui sauve le cœur qu'elle vient habiter. Et notez bien que l'apôtre ne dit pas, c'est en espérance que nous serons un jour sauvés, on verra bien. Heureusement que non. L'apôtre dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est déjà acquis. Celui qui a cette espérance, sait qu'il est sauvé. C'est une espérance qui sauve, parce qu'elle vient du Dieu qui s'appelle le Dieu de l'espérance. Et voyez-vous, le mot espérance n'a pas le terme qu'il a en français, n'a pas le sens plutôt qu'il a en français. Parce que quand on dit en français « j'espère », ça signifie quoi ? En français, le terme « j'espère » signifie peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non est une expression purement normande. Mais quand Dieu parle, il ne tient jamais ce langage. En grec, le grec étant la langue du Nouveau Testament, le terme espérer n'a pas le sens qu'il a en français. Espérer en grec signifie attendre sûrement, être certain dans son attente et dans son espérance. Le terme grec espérer ne laisse pas du tout la place au doute, tandis qu'il la laisse en français. Et toutes les fois où dans les Saintes Écritures vous rencontrez ce terme, espérer, sachez qu'il ne laisse pas la place au doute. Quand un grec du temps du Christ disait « j'espère », ça voulait dire « j'attends avec assurance ». Il ne fait aucun doute que ce que j'attends va se passer. Et ce d'autant que celui qui a fait la promesse ne ment jamais. Il ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Et l'on sait déjà combien la promesse d'un homme honnête, droit, peut-être source d'espérance, a plus forte raison, la parole, la promesse du Dieu qui ne ment jamais. Et si Christ a dit « je reviendrai », c'est qu'il reviendra. Parce qu'il l'a promis. Et parce qu'il reviendra, nos cœurs se gonflent d'une espérance extraordinaire, d'une espérance qui sauve. Et puis c'est une espérance qui ne trompe pas, dit l'apôtre. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, parce que Dieu nous aime. Il répand son esprit dans notre cœur au jour de notre conversion. Et c'est ce Saint-Esprit qui, nous habitant, nous donne par sa puissance de vivre en nouveauté de vie. Il nous donne d'avancer. Et ce même Saint-Esprit nous gonfle le cœur d'espérance, nous l'avons entendu tout à l'heure. C'est lui qui fait abonder dans notre cœur l'espérance du Dieu d'amour. Une espérance qui ne trompe pas, dit l'apôtre, et parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle, nous pouvons lui faire confiance. C'est aussi une espérance vivante, dit Pierre, en 1 Pierre 3. Ça n'est pas une espérance morte, une espérance qui nous donne des visages repoussants. C'est une espérance vivante. Béni soit Dieu, dit Pierre, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection du Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se souiller, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, etc. Mais quelle espérance ! Cette espérance ouvre le ciel sur notre tête. Elle met dans nos cœurs un coin de ciel. Cette espérance est comme les prémices du ciel. Est-ce que cette espérance vous habite ? Est-ce que vous en vivez chaque jour? Ou bien vous demandez-vous de quoi je parle? Mais Alain Choiquier, nous avons quelques espoirs là, et qui sont quotidiennement en nous, que nous essayons de cultiver. Cette espérance est une grande espérance. Elle n'a rien à faire avec ces petits espoirs que nous avons coutume de nourrir quotidiennement. Hein, ces espoirs, ces petits espoirs qui, pour leur grande majorité, vont souvent lamentablement finir au cimetière de nos illusions mortes, n'est-il pas vrai? Cette espérance n'a rien à faire avec ces petits espoirs. C'est une espérance vivante, une espérance qui sauve. C'est une espérance, dit l'apôtre, sûre et solide. Voulez-vous du solide? Eh bien, ouvrez votre cœur à cette espérance. L'apôtre dit qu'elle est sûre, Hébreu. Je dis l'apôtre, l'écrivain sacré, dont le nom ne nous est pas connu, mais d'une manière générale, on tendrait à penser qu'il s'agit de Paul. Mais enfin, l'écrivain sacré dit que c'est une espérance sûre et solide. Sûre et solide. Nous pouvons y aller, faire éperdument confiance au Dieu qui la donne. Une espérance vivante, pourquoi ? Elle a sa source dans la résurrection du Christ. Espérance vivante parce que Christ est ressuscité. Espérance vivante parce que cette espérance fixe le Christ vivant et ressuscité. Espérance vivante parce qu'elle nous tient dans l'attente de la plénitude de la vie en Christ au jour de son retour. Quand le Seigneur alors remplira tout en tous. Au jour de son retour, nous chrétiens, nous entrerons dans la pleine consommation de notre salut. La Bible dit, nous avons cité quelques textes les soirs passés. Par exemple, nous avons cité Philippiens 3:20, où l'apôtre dit ce qui suit. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi pour Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et nous avons aussi cité le texte de 1 Jean 3:2 et la suite où l'apôtre écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce qui sera n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables au Christ parce que nous le verrons tel qu'il est. La pleine consommation de notre salut au jour du retour du Christ, au jour de l'enlèvement de l'Église. Et c'est pour moi, je peux vous le dire, un sujet de jubilation que de prêcher ce genre de choses. Parce que c'est mon espérance. C'est l'espérance de tout chrétien. Quand je pense que beaucoup se disent chrétiens et n'attendent jamais le retour du Christ. Ils ne travaillent pas de toute leur force pour hâter ce retour. Jésus a dit, je viens bientôt. Une espérance donc vivante parce qu'elle se nourrit de la parole vivante et permanente de Dieu. Cette espérance, dit l'apôtre, nous la possédons comme une ancre de notre âme. Que nous avons déjà jeté au-delà du voile où Christ est entré pour nous comme précurseur, une espérance qui déjà nous attache aux eaux paisibles du port éternel. Une espérance vivante. Et parce que vivante, cette espérance résiste aux doutes, elle résiste aux tempêtes de la vie. Et je dirais même davantage, pour l'avoir moi-même expérimenté, par la grâce de Dieu, cette espérance nous fait chanter au sein des plus grandes tempêtes de la vie. Oui, elle nous fait chanter. Et le Seigneur, par cette espérance, m'a fait chanter dans de fortes tempêtes de mon existence. C'est une espérance indispensable qui peut ce soir nous venir du Dieu de l'espérance. Elle est nécessaire, plus que jamais, de nos jours, dans nos circonstances actuelles. Est-ce que cette espérance vous habite? Est-ce qu'elle vous a situé sur du roc, sur du solide? Est-ce qu'elle a mis dans votre cœur des certitudes inébranlables? Ah, souvent je tourne sur ce thème aussi, lors de mes campagnes d'évangélisation, certitudes inébranlables pour un monde en crise. Cette espérance met en nous ce genre de certitude inébranlable dont nous avons besoin plus que jamais. Alors cette espérance nous garde un moral d'acier, en toutes circonstances. Nous en avons besoin, cette espérance. Est-ce qu'elle est en vous? A-t-elle changé votre vie? Elle change le cœur dans lequel elle vient prendre racine. Elle a changé mon cœur, cette espérance. Elle a ouvert le ciel sur ma tête. Et puis, c'est une espérance glorieuse, dit encore l'apôtre, parce qu'elle a pour objet la gloire de Christ, le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle joie de savoir pour ceux qui appartiennent au Christ, que leur espérance va plus loin que la tombe, si le Seigneur devait tarder. Parce que vous auriez peut-être cette question à l'esprit, vous attendez le Seigneur, Alain Joachim, et s'il devait encore tarder, alors vous allez, comme tous les autres, mourir, et les chrétiens vont mourir, c'est vrai. Et beaucoup sont déjà passés de vie à trépas. Mais nous avons cette espérance qui nous reste. Ce retour du Christ, nous ne le manquerons pas. Car le Seigneur lui-même, est-il écrit, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous ne manquerons pas ce grand rendez-vous. Et nous, les vivants qui serons restés sur cette terre, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être ainsi toujours avec le Seigneur. C'est une espérance donc qui ne trompe pas, même si nous devions déloger avant le retour du Christ. Et puis le chrétien, lorsqu'il déloge, lorsqu'il quitte cet habitacle, son corps, il entre sur le champ dans la présence de son Sauveur. Mort pour lui, ressuscité pour lui. La Bible l'affirme. Je suis de ceux et celles qui croient, mordicus de toute leur force, qu'une fois rendu le dernier soupir, eh bien nous nous retrouvons dans la présence exquise, délicieuse, extraordinaire de notre Sauveur béni, en attendant le jour de la résurrection de notre corps, lequel est retourné à la poussière, et des hommes qui ont été animés de cette espérance ont parlé comme Job, par exemple, en Job 19, 25. Job dit ce qui suit. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mais quelle espérance ! Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mais quelle espérance, hein, dans le cœur de cet homme. Et vous avez certainement lu le livre de Job. Vous savez toutes les épreuves par lesquelles il est passé. Et c'est au sein même de ces épreuves, dans ces grandes souffrances, qu'il a laissé échapper ces mots. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mais quelle espérance! Est-ce que ce genre d'espérance vous anime? Et après l'arabe, parce que Job était arabe, le juif. Paul, dans la Bible, arabe et juif, sont d'accord. Paul qui dit en Romains 8:38, « Car j'ai l'assurance. » Voilà un homme qui avait des certitudes. « Car j'ai l'assurance, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. » Voilà un homme qui était animé de cette espérance, qui avait en lui ces certitudes que communique cette espérance, et qui, sur cette terre, aller de l'avant avec son maître, quelles que soient les circonstances, avec son horizon illuminé. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Voilà pourquoi je crois qu'une fois le dernier souffle rendu, nous nous trouvons immédiatement dans la présence du Sauveur. Une espérance glorieuse. Mais en réalité, cette espérance a un nom. Cette espérance a un nom. Elle s'appelle Christ. L'apôtre le dit à Timothée, Christ, notre espérance. Cette espérance s'incarne, s'est incarnée dans une personne, dans la personne du Sauveur, dans la personne du Fils de Dieu. Voyez-vous, notre espérance est encore une personne. Hier, nous avons insisté sur la personne du Christ. Hein, sans elle, il n'y a pas de salut. Nous avons dit que le salut lui-même, c'est une personne. Vous savez que c'est une personne, le salut. Souvenez-vous de ce qu'a dit Siméon au temple, au jour de la présentation du Christ enfant, qu'il reçut dans les bras. Il a fait monter la prière suivante. « Laisse à présent aller en paix ton serviteur, car mes yeux, tandis qu'il avait le Christ dans les bras, mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est Christ. Et si ce Christ-là n'est pas entré dans notre vie, nous ne pouvons pas être sauvés. Notre espérance, eh bien, elle aussi, c'est une personne. Christ, notre espérance. Et l'apôtre l'a dit aussi aux Colossiens. Parce que peut-être, vous demandez-vous, mais comment recevoir cette espérance ? La réponse est dans ce qui suit. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 27. Christ en vous, dit l'apôtre. Alors, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tant que le Christ n'est pas entré dans le cœur de l'homme, il n'y a pas d'espérance. Nous pourrions nous gargariser d'avoir la meilleure religion. Nous l'avons dit, aucune religion ne sauve. Ou même la meilleure dénomination. Non. Aucune église même ne sauve. Il faut le savoir. Seul Christ sauve, et quand nous lui ouvrons notre cœur, alors notre cœur se gonfle d'une espérance divine. En lui, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh, quand nous pensons que Christ est mort pour nos péchés, afin de nous ouvrir un horizon. Le péché nous bouche, l'avenir, il fait obstacle au chemin qui conduit à Dieu. Jésus est venu pour ôter le péché. La Bible dit qu'il est venu abolir le péché par son sacrifice. Il est venu donc ouvrir la route qui mène à Dieu. Voilà pourquoi notre horizon tout à coup s'éclaire, s'illumine. Il est mort pour que nous changions de route. Il est ressuscité pour nous communiquer une espérance. Une espérance vivante, une espérance qui sauve, cette espérance qu'il incarne. Mais il faut regarder à lui. Où regardons-nous ? Il se fait souvent que nous regardions à tout, sauf au Christ. Et que de choses prennent la place du Christ dans notre vie. Que de choses. Nous avons eu l'occasion de le dire. Et puis souvent nous regardons en bas. À regarder en bas, nous sommes pris de vertige. Parce que ce monde bouge. Il est fluctuant. Il patauge plus que jamais dans les marais du doute. Et de l'incertitude. Alors nous sommes pris de vertige. Quiconque regarde au monde est pris de vertige. Nos savants aujourd'hui sont pris de vertige. Je le lisais dernièrement. Un congrès d'ingénieurs, physiciens nucléaires, qui s'est réuni dernièrement, a lui aussi lancé le cri d'alarme suivant. Si une guerre atomique éclatait en Europe, donc de façon limitée, en quelques heures, 150 millions d'Européens passeraient de vie à trépas. En quelques heures. Et c'est en Suisse que j'ai lu cela, il y a quelques jours. Vers les ponts de Martel, il me semble. En quelques heures, 50 millions de morts. Mais si le Christ aujourd'hui ne devient pas l'espoir de l'homme, il n'y a plus d'espoir. Si Christ ne devient pas votre espoir ce soir, il n'y a plus d'espoir. Il y a donc un espoir à saisir, une espérance. Elle s'appelle Christ. Et ce soir, je vous invite à la saisir. On rapporte qu'un apprenti marin, un moussaillon, sur son bateau apprenait le métier de marin. Et il regardait chaque jour d'autres marins sur ce même bateau, plus expérimenté que lui, grimper jusqu'au sommet, au sommet du mât du navire, jusqu'à son faîte. Et lui, il attendait avec impatience le jour où son capitaine lui donnerait enfin l'autorisation d'y aller. Et cet ordre tardait à venir. Quand un jour, il arriva enfin. Et notre moussaillon d'aller à ce mât d'y grimper comme s'il l'avait toujours fait, jusqu'à son faîte. Mais une fois là-haut, notre moussaillon eut la malheureuse idée de regarder en bas. Et en regardant en bas, que vit-il ? Il vit son bateau bouger. Il vit d'autres bateaux autour du sien bouger, eux aussi. Il fut pris de vertige là-haut. Sa tête commença de lui tourner dangereusement, à la limite de la catastrophe. Heureusement, son capitaine ne l'avait pas quitté des yeux. Et le voyant en difficulté là-haut, il lui lança d'une voix forte « Regarde en haut, lève la tête !» Notre moussaillon leva la tête et ses sens lui revinrent, ce qui le sauva d'une mort certaine. Savez-vous ce qu'a dit Jésus dans l'Évangile à propos des temps, des derniers temps ? Il a dit, quand vous verrez ces choses commencer d'arriver, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Jésus a dit cela. Où est-ce que vous regardez ? Où regardons-nous ? Puissions-nous ce soir entendre l'appel de notre Sauveur, nous disant, regarde en haut. Bien sûr, et vous l'avez compris, regarder en haut ne consiste pas à sortir d'ici le nez en l'air. Attention aux voitures. On regarde en haut des yeux du cœur. Éphésiens 1, 18. Pour ceux qui ont la foi, ils ont des yeux au cœur. Les yeux de la foi. Lesquels yeux fixent Christ, regarde en haut. Et si nous quittons le Christ des yeux du cœur, nous sommes comme les hommes de cette génération, en mal d'espérance et nous sommes pris de vertige. Où regardons-nous ce soir ? Je vous invite à regarder au Christ, au terme de cette dernière conférence. Je terminerai plus tôt, étant donné que c'est dimanche soir et que demain, il faut reprendre le travail. J'aimerais vous inviter à demander au Christ cette espérance, c'est lui qui la donne, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors je vous invite à répéter dans quelques instants une prière que je vais dire, vous la direz après moi, phrase après phrase, mais de tout votre cœur. Votre cœur va s'ouvrir au Christ ce soir par cette prière. Vous lui demanderez qu'il pardonne vos péchés. Ce sont eux qui font que vous n'avez pas cette espérance. Le Christ est mort pour nos péchés. Il s'en est occupé. Hein? Il l'a fait par amour. Il l'a fait par justice. Et il l'a fait pour que cette espérance nous vienne. Alors vous ouvrirez votre cœur. Vous demanderez au Seigneur cette espérance par le pardon de vos péchés. Et la vie éternelle. Vous viendrez au Christ dans la repentance, parce qu'il est mort pour vos péchés comme j'ai dû le faire. Et toutes les fois où il m'arrive encore de pécher, voyez-vous, ça peut encore nous arriver. Mais nous n'avons plus le goût à pécher. Le Christ a changé notre cœur quand on est chrétien. Mais il peut encore se faire qu'on pêche, parce qu'on est encore dans ces corps d'humiliation, comme dit l'apôtre, en attendant le nouveau corps, semblable à celui du Christ. Eh bien, quand il m'arrive encore de pécher, je viens à Dieu dans la repentance, au Christ, et je lui dis, tu es mort pour ce péché, je t'en demande pardon. Efface-le. Oublie-le. Seigneur, pardon. Ce soir, vous pourriez venir ainsi. Seigneur, pardon pour mon péché. Mon péché t'a mis sur la croix. Mon péché t'a crucifié, t'a brisé, t'a déchiré. Seigneur, ton sang a coulé à cause de mes péchés, pardon. Et Seigneur, ce soir, accorde-moi de vivre en nouveauté de vie. Vous lui direz cela de tout votre cœur. Alors cette espérance viendra inonder votre vie, votre cœur, et elle abondera au fil des jours.
et par la lecture de la parole de Dieu dont elle se nourrit, et par le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui le lui demandent, que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Puis ensuite, nous entendrons la chorale et je reviendrai pour le mot de la fin. Prions. Si vous aviez constaté que cette espérance dont nous venons de parler vous est étrangère, alors venez au Christ. Venez au Christ parce que vous n'êtes pas sauvés. Qui que vous soyez, peu importe votre dénomination, vous avez besoin du Christ. Vous venez à lui dans votre cœur silencieusement. Vous venez dans la repentance. Vous dites, Seigneur, pardon parce que mon péché t'a crucifié et mon péché me fait tant de mal, dites-lui. Tu as dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ce soir, je constate que je suis encore dans mes péchés. Malgré ma dénomination, malgré mon église, malgré ma religion. Parce que c'est toi, Seigneur, dites-lui, c'est toi qui as purifié le péché, et en particulier le mien. C'est toi qui es mort pour mes péchés, toi, le Christ, une personne, mon sauveur personnel. Je viens à toi. Et je te demande de m'accueillir tel que je suis, dites-lui, tel que je suis. Aie pitié de moi. Et Seigneur, je veux te faire confiance, éperdument confiance. Seigneur, je me confie en toi. Pour le pardon de mes péchés, pour toute ma vie passée, afin qu'elle soit effacée par ton sang précieux qui efface le péché, le passé qui a été mal vécu. Seigneur, efface tout cela, je te le demande, dites-lui. Seigneur, que cette espérance qui change la vie, qui sauve, vienne m'habiter dès ce soir. Qu'elle me fasse changer de route. Et qu'elle me donne un nouvel horizon. Seigneur, je prie de tout mon cœur dans ce sens, dites-lui, de toutes mes forces, entends-moi, ce soir, sauve-moi. Deviens mon espoir, ma vie. Seigneur, je veux te prier pour ceux et celles qui viennent de te dire ces quelques mots, tu les connais, ils sont ici, tu les aimes. Ils sont ici parce que tu les aimes et parce que tu les cherches. Seigneur, qu'ils ne sortent pas d'ici sans t'avoir reçu dans leur cœur. Je prie dans ce sens et je ne suis pas le seul. Je sais qu'ici, des dizaines prient dans ce même sens. Seigneur, sauve ce soir au milieu de nous. Rencontre un tel, une telle. Attire à toi de manière irrésistible. Seigneur, qu'il y ait de la joie dans ton cœur. Et de la joie dans les cœurs de ceux et celles qui viennent à toi, maintenant, au nom de Jésus. Amen.